premier café numérique sans éclat à Digne.
La ville de Digne-les-Bains a lancé un premier café numérique sur le thème des données personnelles. Bonne idée, mais pas de public, hélas. Cette formule d'échange court a pour objectif de susciter le débat autour d'enjeux de société. La première rencontre proposée conjointement par l'UMEN, lieu à usage multiple d'éducation numérique et l'association Outils Conviviaux, s'adressait particulièrement aux jeunes générations. Les smartphones, Internet et les objets connectés continuent de s'immiscer dans notre vie privée. Les enjeux liés aux données personnelles sont de plus en plus importants et il est devenu urgent de se sensibiliser à cette nouvelle problématique afin d'agir en connaissance de cause. Que sont les données personnelles et quels en sont les enjeux? Au micro d'Odile Frison, Thibault Lecor, conseiller municipal délégué au numérique et à l'innovation, puis Christophe Lucartz de l'association Outils Conviviaux.
L'objectif de la ville de Digne, c'est d'être le moteur sur le numérique et on a à cœur justement d'accompagner tous les habitants et les citoyens à se saisir des enjeux qui sont au niveau du numérique. Donc les cafés numériques, parce qu'il y en aura plusieurs, normalement au rythme de un par trimestre. Le premier, c'était à destination des jeunes sur tout ce qui est données personnelles à destination des jeunes parce que c'est eux pour l'instant les principaux consommateurs de tout ce qui est réseaux sociaux et ils n'ont pas forcément conscience de tout ce que ça peut impliquer dans leur vie actuelle mais surtout dans leur vie future par rapport à toutes les données qu'ils peuvent donner à ces grandes entreprises.
C'est une première qui va se refaire puisque aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu un rendez-vous manqué. C'est surprenant que les jeunes ne soient pas ici, est-ce que peut-être le temps y fait ?
Je pense que beaucoup de jeunes, comme ils sont déjà sur ces réseaux sociaux, on pense qu'ils maîtrisent ces outils, mais ce n'est pas parce qu'on est utilisateur d'un outil qu'on en comprend les ressorts. Et c'est là-dessus qu'on veut essayer d'insister. Il va falloir qu'on revoie un petit peu la manière d'aborder les choses pour arriver à capter plus de jeunes. Et puis après, on fera aussi des cafés numériques de manière plus large sur d'autres publics, sur d'autres thématiques aussi qu'on est en train d'élaborer et on va, chemin faisant, trouver les bonnes solutions pour que vraiment cette information qui est importante maintenant dans la vie de tous les jours au niveau du numérique, mais qu'il sera encore plus dans 5, 10, 15 ans, il faut qu'on fasse ce travail-là pour vraiment que les gens prennent conscience des usages qu'ils ont du numérique maintenant auront une répercussion sur plus tard, sur l'avenir.
Merci. On va donc faire connaissance avec Christophe Lucartz de l'association Outils Conviviaux. Vous allez nous décrire déjà cette association et quel est son but.
L'association Outils Conviviaux a été créée il y a 3 ans et demi maintenant. On se définit comme un hébergeur libre et associatif, c'est-à-dire qu'on administre des serveurs et on va mettre à disposition aux membres de l'association un certain nombre de services basé sur de logiciels libres, comme des sites internet, des partages de fichiers, des calendriers, pour justement, c'est de faire prendre conscience aussi qu'il faut reprendre le contrôle de nos données. Donc le but, c'est d'un peu de faire en sorte qu'on dégooglise un petit peu l'internet. On n'est évidemment pas les seuls dans ce genre de pratique. On fait partie d'un collectif qui s'appelle Chaton, justement, qui rassemble tout plein d'hébergeurs un peu comme nous, qui proposons des services libres aux membres. Des différentes associations.
Un échange avec des démonstrations ?
Alors non, il n'y a pas de démonstration particulière, c'était juste une conférence qui dure à peu près 1 heure pour leur expliquer quels étaient les enjeux de ce qu'ils mettaient sur Internet, de la manière dont ils utilisaient Facebook, il y en a d'autres. Hein. Mais le principe est toujours le même chez ceux-là, c'est de récupérer le maximum de données pour ensuite les vendre, faire du profit avec et les utiliser pour les utiliser plus tard. C'est pas parce qu'on utilise ce service-là qu'on comprend les enjeux qui sont derrière. Il y a une petite phrase qui circule qui dit « Si un service est gratuit, c'est que tu en es le produit ». À partir du moment qu'on vient utiliser ce service-là, l'entreprise va bénéficier de plein de données personnelles qui vont, eux, savoir mettre à profit. Et c'est ça qu'on veut essayer de faire passer aux jeunes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser ce service-là, ça veut dire qu'il faut en être conscient.
Parce que Facebook, c'est vraiment la machine de guerre. Tous les jeunes utilisent Facebook et les moins jeunes aussi. Il y a un équivalent. Qu'est-ce que vous proposez ?
Alors justement, vous faites bien de poser la question, parce que récemment, on a, avec justement ce collectif Chaton, mis en ligne une sorte de Twitter libre, Donc, c'est-à-dire que bah, Twitter, c'est encore une fois une entreprise qui récupère plein de données, etc. Et du coup, nous, on a mis en ligne, avec le collectif, plein de petits serveurs Twitter libres qu'on appelle Mastodonte. C'est le même principe que Twitter, sauf que les données vont pas à une seule entreprise, mais à je sais plus, à 300 instances de Mastodonte dans le monde pour utiliser ce service-là qui est le même, et toutes les données vont pas être centralisées chez une seule entreprise. Là, on essaie de contrer Twitter. Facebook, il y a aussi d'autres alternatives qui essaient de pousser. En fait, c'est un effet de masse. Pourquoi on va sur Facebook? C'est parce que les autres y sont. Et c'est là que Facebook a été très fort, c'est que du coup, tout le monde y est, donc tout le monde a envie d'y être pour avoir des informations. Il y a une sorte de masse critique qui a fait que tout le monde va y être. Et parce que tout le monde y est, ben, ils ont de plus en plus de données, ils savent de plus en plus les croiser, d'en tirer profit. Donc après, ça veut dire que changer, aller dans une alternative, c'est-à-dire qu'il faut convaincre énormément de gens pour aller dans un nouveau réseau social et refaire le même principe, passer une masse critique pour que tout le monde ait envie d'y aller. Et c'est justement passer cette zone critique que beaucoup de systèmes, ou en tout cas des alternatives, n'ont pas réussi à passer pour le moment.
Comment on peut tirer profit ?
Là, 90% des revenus de Facebook, ça passe globalement par la publicité. En fait, c'est une sorte d'annonceur publicitaire, Facebook. C'est-à-dire que si moi, je m'inscris sur Facebook, je mets plein de photos de randonnées, de voyages, etc., Facebook va savoir que je fais de la randonnée. Et du coup, Facebook va aller contacter les différentes marques de chaussures de rando, par exemple, et puis dire, bah, j'ai des clients là qui font beaucoup de rando, donc potentiellement ça peut être un client intéressant pour vous. Combien vous me donnez, donc combien vous donnez nous à Facebook, pour que je mette une image, une publicité de votre entreprise devant les yeux de ces personnes. Et du coup, ils ont tout bénéfice de... Donc en fait, c'est une sorte d'annonceur. Après, ça c'est le domaine de la publicité. Après, ça peut aller plus loin, justement, et c'est là qu'on essaie de mettre en garde. Ou par exemple, l'accès au crédit. Facebook a récemment déposé un brevet pour essayer de calculer la capacité d'un utilisateur à rembourser un crédit à partir de son profil, des données qu'il récupère de son profil. C'est-à-dire qu'au niveau des banques, les banques vont être intéressées pour savoir la capacité à rembourser de telle personne pour voir si elle ne va pas perdre de l'argent en donnant un crédit à quelqu'un. Et du coup, c'est là qu'on peut voir l'utilisation des données qui va au-delà de la publicité et qui du coup va vers une forme de discrimination entre une personne X et une personne Y. Il y en a une qui arrive mieux à rembourser son crédit, ou du moins à travers les données personnelles, l'information qu'il y a eu, bon bah du coup on va peut-être accorder un crédit à monsieur X et pas à madame Y. Parce que sur Facebook, ça, l'algorithme a dit bah non, lui il va pas rembourser, par contre lui il rembourse. Donc il y a une forme de discrimination. Donc ça peut être au niveau des banques, au niveau de l'embauche, et puis au niveau des assurances. C'est les trois grands domaines où il peut y avoir une discrimination importante vis-à-vis des citoyens.